de doubler la rémunération du travail, alors, mais dans des proportions absolument gigantesques. Donc il y a un ethos qui est complètement imprégné de cette cupidité, mais mélangé à des formes de crédulité absolument naïves, moi, qui me font penser à celles de ces lecteurs un peu âgés du Télé 7 jours d'il y a 20 ou 30 ans. Vous savez, qui remplissaient scrupuleusement leur bon de commande pour acheter la pierre du Nord avec le portrait de Daniel Gilbert en incrustation, dans l'espoir que ça allait les guérir de leurs ongles incarnés ou de leurs hémorroïdes. Et c'était toujours la même cruelle expérience de la déception recommencée. Ça ne marche pas. Eh ben, 10 à 15% l'an garanti en bourse, ça ne marche pas non plus. Pareil. Bon. Donc, moi, je me demande, à la fin des fins, si il ne faut pas l'expérience absolument douloureuse, hein, j'en conviens, mais de la ruine pour extirper cette idée de la cupidité qui est le pilier central de la culture du capitalisme financiarisé. Et très honnêtement, s'il le faut, j'aurais presque tendance à dire ainsi soit-il. Bon, alors, je parle des ruinés de Madoff, mais je parle des États-Unis, mais on a les mêmes à la maison, hein, et qui reviennent là aussi avec la même régularité métronomique. J'ai le souvenir, lors de l'éclatement de la bulle Internet, donc c'était en 2000-2002, d'avoir entendu à la radio chialer un petit actionnaire qui avait certainement dû se croire très malin pendant la période de la bulle, puisque là, il faisait ses investissements depuis son ordinateur à la maison par Internet, il était au comble de la modernité. Sauf que le gros malin, il avait investi toute son épargne en vue de la retraite sur trois titres essentiellement, qui étaient France Télécom, Alcatel et Vivendi, dont chacun a perdu au cours de la crise Internet à peu près 90% de sa valeur. Et fuite faisait la retraite du monsieur, et il n'avait plus que ses yeux pour pleurer. Bon, c'est absolument tragique d'un côté, et en même temps, c'est tellement vertigineux de bêtises et d'aveuglement cupide qu'on se dit, mais s'il faut en passer par là, bon. Alors, il y a ces ruinés-là pour lesquels, moi, je me déclare à sec de compassion. Et puis alors, il y a des ruinés d'une autre sorte qui, eux, sont plus à plaindre qu'autre chose, parce qu'ils sont pas du tout, les pauvres ne sont pas du tout responsables de leur sort. Hein. Je vais donner deux exemples. Le premier, je repars aux États-Unis. Hein. Les salariés de Enron, par exemple, lorsque la boîte a fait faillite, du fait de sa gestion ultra scabreuse, de ses manipulations comptables, etc. Les salariés d'Enron ont vu partir en fumée toute leur retraite. Mais alors, eux, ils sont bien à plaindre parce qu'ils n'avaient pas le choix de placer leur épargne autrement que dans les actions de la boîte, et que la boîte a explosé en plein vol du fait des manipulations de ses dirigeants auxquelles les salariés n'avaient strictement aucune part. Donc là, les pauvres étaient pieds et poings liés et ils ont subi la ruine comme un destin dans lequel ils n'avaient aucune responsabilité. De la même manière, pour retraverser l'Atlantique une nouvelle fois, il y a plein de petits épargnants qui se font purement et simplement filouter par des conseillers financiers peu scrupuleux qui ont pour tâche de fourguer de l'action comme un représentant ses balais brosses et avec le moins de conseils financiers et de renseignements possibles parce que moins on en dit, plus ça partira vite. Bon, alors là, on revient vers l'hypothèse de la crédulité, mais la crédulité de bonne foi est abusée de manière flagrante. Alors ceux-là, oui, ils ont vraiment toutes les raisons de se plaindre. Et alors, parmi les leçons qu'il y a à tirer de ce triste épisode, c'est-à-dire il y a à la fois la maxime à l'adresse des épargnants de se tenir aussi éloigné que possible des actions, mais il y en a également une autre qui a une portée plus prospective et qui a trait au cas de la Poste, qui est en train de se transformer en société anonyme postale, dont la banque postale sera le centre, hein, ça on le voit très bien venir, et qui sera la caisse d'épargne de dans 10 ans. Ça, c'est écrit. Et le pire étant que ce sont les équipes dirigeantes à chaque fois, hein, de toutes ces entreprises qui poussent à la roue et rejoignent les projets politiques de déréglementation et de normalisation capitaliste, tout simplement parce que elles ont envie, elles aussi, de prendre part au grand jeu de la mondialisation. Et alors spécialement la Poste, qui est un collecteur d'épargne parmi les plus grands de France et qui est donc assise sur un tas d'or et qui se dit « mais alors avec un coffre-fort pareil, j'ai les moyens d'être le roi du pétrole sur les marchés de capitaux. » Et ceci finira mal.
C'était C'était la deuxième partie du reportage de Charlotte Perry, première diffusion le 30 mars 2010. Merci à Didier, Christophe et à Frédéric Lordon. Merci également à Philippe Frémaux du magazine Alternatives économiques, ainsi qu'à Patrick Sorin et aux syndicalistes de Sud-Canada.